Voir ce que cette collaboration prometteuse donne une fois qu'on l'a mis en pratique avec nos deux invités qui sont venus nous parler d'acceptabilité sociale et d'appropriation des territoires. Ils vont nous parler à la fois de leur parcours de chercheur et aussi de leur recherche. Donc, je suis ravie, nous sommes ravis toutes et tous d'accueillir aujourd'hui Sofiane Baba, qui est professeure de management stratégique à l'école de gestion de l'université de Sherbrooke et qui est aussi membre du comité scientifique de KEOPS. Et Denis Delbert, qui est professeur à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille et membre du conseil scientifique ITECOP. Donc, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté de venir de participer à cette rencontre aujourd'hui et à ces échanges qu'on espère fructueux. Donc, la présentation, ce à quoi vous allez assister aujourd'hui, c'est pas une présentation standard, on vous met un PowerPoint, chacun dit ce qu'il a à dire, puis après vous posez vos questions. On a décidé de twister ça un petit peu différemment, de donner un ton un petit peu différent et d'essayer vraiment d'engager un échange entre les chercheurs, à la fois sur leurs pratiques, sur les convergences et les différences dans les thèmes de recherche. Donc, on espère que cette formule vous plaira, que tout se déroulera bien. Et je vais maintenant leur céder la parole. Donc, bonjour à vous, Sofiane et Denis. Merci donc d'être avec nous. Denis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, votre itinéraire, votre spécialisation, s'il vous plaît?
Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Denis Delbart, je suis paysagiste concepteur, c'est le titre qui nous est donné actuellement en France, c'est l'équivalent d'architecte paysagiste partout ailleurs dans le monde, et donc effectivement membre du conseil scientifique d'ITECOP depuis pas mal d'années maintenant, où je représente plutôt la sensibilité paysagère, comme vous vous en doutez bien. Donc j'ai exercé ce métier de paysagiste d'abord en libéral pendant 25 ans, de 1993 à 2018. Et puis je me suis engagé dans la recherche à la fin des années 90 pour trouver des réponses à des questions que justement ma pratique du projet de paysage me posait et qu'elle ne me permettait pas de combler. Je me suis engagé dans la recherche à ce moment-là, d'abord en doctorat, ensuite j'ai passé une HDR, donc j'encadre des thèses qui tournent autour, on va dire, des problématiques liées de manière assez générale au projet de paysage et au rôle qu'il peut jouer aujourd'hui dans la transition territoriale. Et puis, c'est à ce titre que je dirige l'un des quatre départements du LACT, qui est le laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, école dans laquelle j'enseigne depuis 2004, avec effectivement ce titre de professeur en ville et territoire. Voilà, que vous dire d'autre? Je suis très impliqué dans la vie associative, notamment dans la dans une démarche de critique de projet. J'essaie de structurer une démarche de critique qui fait défaut actuellement, je pense, en France, c'est certain, et vraisemblablement bien au-delà. Démarche d'analyse critique de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'aménagement du territoire, par exemple. Je dirige un collectif scientifique qui s'appelle la Piste de Licoteau, mais dont je reparlerai tout à l'heure, puisque ce collectif est au cœur du projet de recherche que je vais avoir le plaisir de vous présenter dans la deuxième partie de notre échange.
Merci Denis. Sofiane, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur vous aussi avant de rentrer dans le cœur du sujet?
Oui, merci beaucoup Armance. Bonjour à toutes et à tous, très content d'être ici parmi vous. Merci aussi à l'équipe d'ITECOP et puis de KEOP pour l'organisation. C'est magnifique d'avoir autant de monde et puis autant de monde de qualité aussi. Je parcourais hier la liste des inscrits et puis Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être à ma place pour nous parler d'acceptabilité sociale. Donc, j'ai bien hâte aussi à la période de discussion à la fin pour en parler. Bah écoutez, ça se voit peut-être à l'écran, mais j'ai quand même beaucoup moins de lignes sur mon CV que Denis. Ça fait de mon côté 2 ans et demi que je suis professeur à l'école de gestion. Donc, l'université de Sherbrooke, je m'intéresse principalement qu'on peut appeler le management stratégique, donc toute la question un peu de réfléchir aux organisations et à leur avenir. Et ce qui m'intéresse plus précisément, c'est toute la question de l'interface entre les organisations, les entreprises et la société. Et bien souvent, du point de vue du développement durable, donc avec toute la question derrière, à savoir comment est-ce que les organisations peuvent contribuer à faire de ce monde un meilleur monde, à la fois au niveau économique, mais aussi au niveau environnemental et au niveau social. Ma thèse de doctorat que j'ai complétée à HEC portait sur l'acceptabilité sociale des projets, pas vraiment des projets d'infrastructure routière, mais plutôt de grands barrages hydroélectriques. L'histoire environnementale du Québec est intimement liée à l'histoire de controverses liées à des barrages gigantesques. Et donc, c'est un peu ce que j'ai essayé d'étudier dans le cadre de ma thèse. Je poursuis encore ces recherches sur l'acceptabilité sociale, sachant que mon unité d'analyse, contrairement à Denis, ne sera pas le territoire, même si je l'explore minimalement, mais beaucoup plus l'organisation, donc le promoteur, et dans une certaine mesure la relation, donc le processus en quelque sorte entre le promoteur et la partie prenante ou les parties prenantes locales. Voilà, moi j'ai un cursus un peu plus linéaire, c'est-à-dire l'équivalent d'une licence en gestion, une maîtrise en stratégie et un doctorat en stratégie. Donc naturellement, j'inscris mes travaux de recherche sur l'acceptabilité sociale dans une logique plus classique, je dirais, peut-être un peu plus anglo-saxonne, c'est-à-dire plus managériale, plus organisationnelle. Mais on essaie quand même pour autant d'avoir peut-être un regard critique dont Denis a parlé. On pourra en parler un peu plus tard. Je pense que c'est effectivement un aspect intéressant des discussions actuellement sur l'acceptabilité sociale. Donc voilà, je parlerai un peu plus de projets de recherche et de quelques exemples de papiers qui vont bientôt sortir un peu plus tard. Donc voilà, brièvement mon parcours. Et puis je suis aussi bien sûr membre du comité scientifique de KEOPS depuis un peu plus d'un an. Et donc je fais partie de l'axe, en tout cas, enfin je contribue aux deux axes, mais je chapeaute avec Marie-André, l'axe société et grand projet. Et j'ai aussi quelques recherches qui font justement le lien entre société et grand projet et l'aspect de gouvernance, donc le deuxième axe de recherche fondamental chez voilà.
Merci Sofiane. Et ben, comme peuvent le constater nos participants, nous n'avons peur de rien. On a pris deux profils très différents pour essayer de vous parler de quelque chose qui n'est même pas conçu de la même façon des deux côtés. Quand je dis deux côtés, c'est les deux côtés de l'Atlantique. Si je parle, depuis tout à l'heure, Sofiane a employé plusieurs fois le mot acceptabilité sociale. Denis, est-ce que ça vous fait réagir? Qu'est-ce que ça, par rapport à la recherche en France, qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez acceptabilité sociale? Puis Sofiane, je vous demanderai de réagir à ce que dit aussi Denis, parce que là, on est au cœur d'un concept. Moi, je suis du côté québécois, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Donc, Denis, je vous invite à réagir, s'il vous plaît.
Alors, ce terme d'acceptabilité sociale, il est également utilisé de notre côté de l'Atlantique. Il y a beaucoup de mes collègues au sein du conseil scientifique qui l'utilisent, j'allais dire abusivement, je voulais dire abondamment. Mais pour autant, il ne fait pas l'unanimité. Voilà, ce n'est pas du tout un concept transparent. Je dirais, j'ai l'impression hein, que il est assez fortement accepté au sein des sciences de la nature et en particulier par ceux de mes collègues qui se situent du côté de l'écologie et de la gestion des espaces naturels, qui sont souvent confrontés à une problématique de réception sociale de plans de gestion environnementale qu'ils mettent en place sur certains espaces, par exemple de bord d'infrastructure, gestion environnementale qui peut avoir des traductions paysagères diversement appréciées par les populations riveraines concernées. Donc, Dans ces cas-là, l'acceptabilité sociale, pour eux, ça va être une procédure par laquelle on va aller rechercher l'adhésion de ces populations, généralement par le biais d'un travail de communication qui peut prendre toutes sortes de formes plus ou moins sophistiquées, communication, d'information. On peut aller parfois jusqu'à des démarches dites participatives, d'organisation d'ateliers, de choses comme ça. Je dirais que dans le versant plus social des disciplines représentées au sein du comité scientifique et plus largement des équipes de recherche qui sont mobilisées par les programmes portés par ITECOP, cette notion d'acceptabilité sociale est beaucoup plus critiquée, voire même franchement rejetée, dans la mesure où on est quand même dans un contexte territorial en France, en Europe d'une manière générale, qui est un peu différent de celui que vous connaissez en Amérique du Nord, d'ailleurs, qui est un contexte par ailleurs que, à titre personnel, je connais fort mal, donc je vous prie de m'excuser par avance pour tout ce que je pourrais dire pour avoir de caricatural, et n'hésitez pas à me reprendre chaque fois que ça se produira. Mais je dirais qu'on est quand même un pays qui, me semble-t-il, par rapport au Canada, est plein comme un œuf. Un pays dans lequel il n'y a plus beaucoup de grands espaces. Tous les espaces sont abondamment habités. Chaque mètre carré concerne directement plusieurs catégories de population, plusieurs classes sociales, plusieurs catégories d'usage, plusieurs catégories professionnelles. Et donc, dès qu'on touche à ce territoire, on se trouve confronté à des situations de conflit effectives ou potentielles avec lesquelles nous devons composer. Alors, c'est là que la question de l'acceptabilité sociale peut être mise en critique, parce que vouloir pratiquer de l'acceptabilité sociale, donc par le biais de ces démarches participatives, par exemple, ou d'information, ça va immanquablement se traduire par une prise de pouvoir par l'un de ces groupes au détriment des autres. C'est la grande faiblesse, à mon avis, de ces démarches-là. C'est qu'on donne la parole, c'est très bien, mais tout le monde n'est pas capable de prendre la parole, et en tout cas pas de la même manière, et certainement pas dans les cadres dans lesquels on propose effectivement à ces populations de s'exprimer. On exclut fatalement des catégories d'âge, des catégories de culture, des catégories professionnelles, etc., etc. Donc, du point de vue de cette critique sociale de l'acceptabilité sociale, de ce concept d'acceptabilité sociale, je dirais que on aurait tendance à y voir une forme de prise de contrôle par certains intérêts sous couvert de démocratie participative. Voilà, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'emploie jamais ce terme, je ne le revendique pas, et je préfère effectivement parler d'appropriation sociale. En me plaçant plutôt d'ailleurs sous l'angle de la constatation d'appropriation effective plutôt que sous celui de la création de nouvelles appropriations, qui me laisse aussi un peu dubitatif.
Oui, effectivement, je vous sens très critique à l'égard de ce terme. Sofiane, qui l'emploie, je ne vais pas dire allègrement, mais qui emploie le terme,
Abusivement, pour reprendre la formulation de Denis. écoutez, sincèrement, je suis en fait assez en accord avec Denis sur la perspective critique. Mais en même temps, je vois aussi une grande utilité au concept, que ce soit pour façonner le débat public, mais aussi pour façonner un peu notre compréhension plus universitaire de ces phénomènes. Donc, je vais réagir peut-être en 3-4 temps. Alors, le premier, c'est par rapport un peu au fait que l'acceptabilité sociale, c'est d'abord une notion qui est relativement récente, je dirais, dans la sphère académique. Qui est aussi une notion très contestée, un peu comme Denis l'explique. Et elle est contestée pour plusieurs raisons. c'est-à-dire celle que Denis a mentionnée certainement, mais il y a aussi d'autres raisons. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas exactement ce qu'est l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire qu'on emploie ce terme, mais sa définition est encore assez floue. Qui doit accepter un projet? Dans quelle proportion? Pourquoi ces acteurs-là auraient préséance sur le droit de veto ou non par rapport à un projet? Est-ce qu'un projet doit nécessairement être accepté par tout le monde en tout temps, dans chaque contexte? Donc, il y a quand même des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, et ça soulève parfois les interrogations légitimes que Denis a posées. Il y a toute une critique aussi qui a été émise d'ailleurs par des collègues ici à Montréal. Je pense notamment à Pierre Batelier, je pense aussi à Corinne Gendron, à l'UQAM, qui ont critiqué un peu l'usage du concept, c'est-à-dire même l'idée d'acceptabilité sociale, qui, selon eux, est une forme de domination en quelque sorte rhétorique, c'est-à-dire que dans l'acceptabilité, il y a l'idée, il y a la prémisse que le projet doit nécessairement être accepté, en tout cas, il doit être réalisé, quoi qu'il en soit. Donc le débat devient beaucoup plus une forme plutôt qu'un vrai lieu où on peut statuer que le projet n'est pas souhaitable. Et donc, ces auteurs-là vont distinguer l'acceptabilité sociale de l'acceptation. Donc, l'acceptation étant un processus où le statu quo, à la fin, est possible. C'est-à-dire qu'on a le droit, en tant que partie prenante, de dire on est heureux avec la situation actuelle de notre territoire, on ne veut pas de votre projet. Donc il y a aussi une critique sémantique par rapport à l'idée même de l'acceptabilité. Alors, Denis l'a bien mentionné, la conception limitée de l'acceptabilité sociale par rapport un peu à ce qu'est le débat public, ce qu'est la démocratie participative et quel est le vrai poids des individus et des communautés dans la réalisation ou non du projet. Donc, souvent, c'est plutôt une sorte de mascarade, en tout cas, c'est plutôt parfois une arène, plus une pièce de théâtre qu'on joue et puis qui donne souvent lieu d'ailleurs à des oppositions et malgré ces oppositions, les projets vont quand même de l'avant. Donc, je dirais oui, je suis en accord avec Denis sur ces critiques. En même temps, il y a quand même, quand on regarde la littérature, il y a quand même plusieurs perspectives. C'est-à-dire, d'un point de vue plus peut-être épistémologique, il y a quand même plusieurs façons de concevoir l'acceptabilité sociale. En Amérique du Nord, je dirais, on en a trouvé quatre avec un collègue. Il y a une vision qui domine la littérature. C'est vraiment la vision, je pense, à laquelle Denis est allergique. C'est l'acceptabilité sociale comme résultat, comme produit. Et donc, il y aurait une telle sorte qu'une recette magique pour aller chercher, pour aller obtenir cette acceptabilité, pour réaliser un projet. Et dans cette optique-là, on va s'intéresser un peu à qu'est-ce que ça nous prend, quelle est cette fameuse recette magique. Il y a une vision beaucoup plus, donc cette première vision dominante, il y a une deuxième vision qui est peut-être beaucoup plus, je dirais, subjectiviste ou en tout cas social, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser beaucoup plus aux dynamiques, quelque chose de plus processuel. On va s'intéresser par exemple à des interactions sur 20, 30, 40 ans et on réalise que l'acceptabilité sociale, évidemment, on ne l'acquiert pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui se construit peut-être dans la durée. Il y a une vision plus culturelle ou culturaliste, c'est-à-dire que il y a aussi des recherches qui démontrent que l'acceptabilité sociale est quelque chose de socialement construit, c'est-à-dire si on va dans certains pays où les processus de démocratisation ne sont pas encore achevés, parler d'acceptabilité sociale n'a aucun sens, versus des sociétés parfois occidentales qui sont beaucoup plus développées au niveau de la démocratie, ça prend tout son sens. Donc, quelles sont un peu les perceptions et les attentes des parties prenantes dans différentes régions géographiques? Et finalement, la perspective critique, donc de remise en question complètement du concept, mais aussi des prémices en quelque sorte, en tout cas des éléments plus implicites à l'acceptabilité sociale. Il y a pas mal de chercheurs qui s'inscrivent dans cette posture critique, mais ils sont quand même assez rares, je dirais. Ils sont quand même assez rares et, à mon avis, en tout cas de l'extérieur, et peut-être que c'est une caricature, au Québec, j'ai quand même l'impression que le terme d'acceptabilité sociale s'est quasiment institutionnalisé dans les 10-15 dernières années. Les autorités publiques se sont appropriées depuis au moins 10 ans. Il y a maintenant un livre vert, il y a parfois même le terme est utilisé dans des législations, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Donc il y a quand même, on le prend pour acquis ce concept-là, et dans la société civile, on l'utilise aussi abondamment. Dans le monde des affaires, on l'utilise encore plus, et puis même nos ministres, notre premier ministre l'utilise très fréquemment dans les discours politiques. Donc je dirais, on a appris en quelque sorte à vivre avec, au point où la prise de position plus critique est peut-être un peu plus rare ici qu'en France. Et puis, il faut dire aussi que sociologiquement, je pense que la société française est peut-être une société quand même plus contestatrice en quelque sorte, c'est-à-dire que tout est débat, tout est discutable, débattable. Ça l'est peut-être un peu moins au Québec, d'ailleurs, on en rigole ici, c'est-à-dire qu'on dit qu'on préfère le statu quo, en tout cas, on préfère le compromis à la controverse. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin d'un concept ici pour parler de choses qui ne font pas partie de notre quotidien d'un point de vue là, d'engagement politique. Caricature, bien sûr, peut-être, mais peut-être que Denis va être aussi en accord.
Je ne sais pas, Denis, si vous souhaitez ajouter quelque chose sur... finalement, on a parlé un petit peu de la question de la démarche participative qui, elle ne se veut pas nécessairement exclusive, mais qui exclut quand même. Il y a des questions à se poser, en fait, sur la pratique, la mise en pratique de ces démarches-là. Il y a le concept, mettons, positif. Puis, Sofiane, vous parliez d'appropriation... d'acceptation versus l'acceptabilité, puis l'appropriation et l'acceptation se rencontrent peut-être un petit peu plus dans l'approche, dans ce que j'entends. On voit aussi que l'acceptabilité sociale est plus utilisée au Québec d'un point de vue politique, d'un point de vue dans la société civile, etc. Est-ce que, donc là, on a plus parlé de l'aspect théorique de la chose, on parlait d'un produit d'une fin en soi finalement parfois, comment ces notions sont mobilisées dans la pratique et par la recherche. Comment, parce que c'est très intéressant là, vous nous avez parlé de ce qui vous préoccupe comme chercheur, de ce que vous constatez, on comprend qu'il y a quand même des différences et des enjeux à la fois communs mais aussi divergents. Je vois un aspect commun, notamment dans la domination que ça peut entraîner, dans la rhétorique aussi et dans la conception limitée. Je vois peut-être une divergence dans l'interprétation qu'on en fait, comme disait Sofiane, au Québec, ça a l'air d'être quelque chose qui est accepté. On le prend pour en parler, en fait. On n'est plus dans la même, on n'est pas dans la même dynamique, je pense, par rapport au concept. Puis aujourd'hui, on ne peut pas nécessairement uniquement parler du concept, mais aussi de sa mise en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça signifie pour vous, chercheurs? Donc, Denis, je vous laisse la parole.
Je ne sais pas exactement comment vous souhaitez, quelle forme vous souhaitez qu'on donne à la réponse, mais en tout cas, il y a un point, je pense, qui est très important à avoir à l'esprit et qui explique certainement en grande part ces écarts. De réception de ce concept d'appropriation sociale. Et je suis d'accord avec Sofiane, il y a certainement de multiples façons de l'envisager, dont certaines peuvent avoir une forme de souplesse et d'adaptabilité, qui la rendrait peut-être plus pertinente de mon point de vue. Mais je pense qu'il y a quand même une différence de contexte, là aussi, qui est très importante, c'est que il me semble qu'au Canada, vous êtes encore dans une démarche de création de nouvelles infrastructures. Il y a de grands projets d'aménagement du territoire, alors qu'en France, c'est derrière nous. Il y a eu, de ce point de vue-là, pour moi, un moment charnière avec l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous en avez, je suppose, entendu parler de votre côté de l'Atlantique. Donc ce projet qui était dans les cartons depuis les années 60, qui avait reçu la bénédiction de toute la technostructure depuis plusieurs décennies, dont la valeur économique, la pertinence pour le développement de la région nantaise était largement cautionnée par la quasi-totalité des experts, et qui a fait l'objet ensuite de référendums, etc. Ça, enfin vraiment, tout a été mis en place pour bien faire le projet, voilà, pour le manager de façon remarquable, on pourrait dire. Mais malgré tout, ce projet ne se fait pas, ne se fera pas. Et je pense que là, c'est un peu symptomatique du moment dans lequel nous sommes entrés dans l'histoire de l'aménagement du territoire en Europe, qui n'est plus, qui, à mon avis, ne sera plus, ou seulement de façon marginale, une histoire d'aménagement, et de plus en plus une affaire de ménagement, c'est-à-dire qu'il s'agira d'accompagner des projets d'infrastructures déjà réalisés ou en cours d'achèvement. Et donc, ce travail avec les populations ne consiste plus à les convaincre du bien fondé d'un projet pas encore réalisé, mais bien plutôt de considérer la façon qu'ils ont de vivre d'ores et déjà avec des infrastructures existantes et de voir dans quelle mesure cette vie avec l'infrastructure, cette façon de faire paysage avec l'infrastructure, de faire cadre de vie avec l'infrastructure, de faire pratique sociale avec l'infrastructure, peut être améliorée, voire même peut rendre des services à la collectivité, des services de nature écosystémique, mais pas que, des services de nature économique, des services de nature sociétale, etc., etc. Voilà, je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit cette différence de contexte. À mon avis, elle éclaire très largement le débat qu'on a un peu engagé avec Sofiane. Après, je vous souhaitais intervenir, Armance.
Non, je vous écoute. C'était oui pour dire pour effectivement la différence de territoire et je pense que vous allez nous en parler ensuite dans vos interventions qui portent plus sur vos recherches, mais effectivement votre travail, enfin votre approche se différencie aussi à cet égard-là. Sofiane, je ne sais pas si vous voulez réagir.
Oui, peut-être juste pour réagir. C'est vrai qu'il y a une dimension, je pense, contextuelle qui est très très importante et ça façonne probablement la manifestation des phénomènes, mais aussi comment on les aborde. Je dirais que le premier élément contextuel, alors celui de Denis est très important, c'est-à-dire la densité n'est pas du tout la même. Au Québec, j'ai vérifié un peu plus tôt cette semaine, on est entre 4 et 7 habitants par au kilomètre carré, et en France, on est au-delà de 100, c'est-à-dire que l'impact immédiat de certains projets sur les populations n'est pas le même en termes d'ordre de grandeur. Au Québec, le Nord est relativement vide, donc il y a eu quand même, et actuellement même, on parle d'un grand projet de développement économique au Nord qui a commencé en réalité dans les années 70 avec cette idée-là de conquête du Nord, donc un Nord complètement vide, en tout cas du point de vue occidental, il y avait quand même des Premières Nations et encore des Premières Nations qui occupent ce territoire et ils en prennent bien soin. Donc l'élément contextuel est très important, et c'est vrai que cette idée-là de perspective, c'est-à-dire qu'au Québec, bien souvent, quand on parle d'acceptabilité sociale, ça va être l'acceptabilité sociale d'un nouveau projet. Et Dieu sait qu'il y en a encore beaucoup là autour de nous, actuellement dans les médias, je pense qu'il y a au moins une dizaine de controverses liées à des projets d'infrastructure qui défraient l'actualité, alors que je comprends peut-être qu'en France, il y a peut-être plutôt la question de la réappropriation du territoire, donc des projets existants qu'on doit peut-être revoir. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est pas ce qui a dominé le débat au Québec, je dirais, ni dans la recherche, ni dans la pratique. Là, on parle vraiment de nouveaux projets qu'on essaye de concevoir et puis qu'on essaye de mener à bout. Et on réalise à quel point l'acceptabilité sociale est importante dans ce débat. Dernier élément contextuel, c'est le contexte d'émergence du concept, c'est-à-dire qu'au Québec, l'acceptabilité sociale, on l'a d'abord et avant tout utilisée dans un contexte de développement des ressources naturelles. Le secteur des ressources naturelles est un grand secteur au Québec, que ce soit l'énergie avec l'hydroélectricité, que ce soit le secteur extractif avec toutes les minières et aussi la foresterie. Donc surtout les minières et la foresterie, deux industries très très controversées. Donc, parmi les premières fois où on a commencé à utiliser ce terme, c'était davantage dans ce secteur-là. Progressivement, on a commencé à s'approprier le terme pour l'employer dans le cadre d'autres types de projets. Et là, il faut faire un parallèle avec la littérature anglaise. C'est-à-dire, en anglais, le concept équivalent d'acceptabilité sociale, c'est l'équivalent de licence sociale d'opération ou licence sociale pour opérer. Donc en anglais, social license to operate. Et l'idée de licence sociale pour opérer ou d'opération, c'était pour faire un peu l'analogie avec la licence légale d'opération. Et là, on parle de la social license, elle a émergé fin des années 90 dans un contexte donc à la Banque mondiale, autour d'une discussion sur les enjeux vécus par l'industrie minière à travers le monde. Et donc on s'est approprié un peu ce terme, on a évacué un peu la contradiction liée à l'autorisation légale versus autorisation plus sociale, plus implicite. On s'est approprié un peu ce débat, mais il faut aussi revenir un peu à la source de l'utilisation massive de ce concept. Donc le secteur extractif a beaucoup influencé notre vision aussi de ce concept jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire au Québec. Quand je dis que le gouvernement s'est approprié le terme, on parle naturellement du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie, qui en a fait un cheval de bataille parce que justement, il voulait davantage stimuler les projets puis le développement des ressources naturelles.
Merci Sofiane, merci Denis. Là, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on pourrait parler encore du concept pendant un moment, de territoire aussi, du contexte d'émergence de ce concept et de la question de la licence sociale. Mais vous êtes au-delà de cette approche théorique, vous êtes aussi chercheur et ce sont les notions que vous venez d'évoquer d'appropriation ou d'acceptabilité selon votre point de vue ou votre approche traverse aussi vos travaux et vous nous avez préparé une petite présentation plus sur une de vos recherches ou vos recherches, les outils que vous mobilisez, etc. Donc Denis, peut-être si vous pouvez nous présenter votre recherche, oui. Qui nous parle de...
Bon,
de
alors je vous ai envoyé des images, je ne sais pas comment se fait le partage des images, comment vous envisagez les choses pour communiquer ces images.
Judith va partager l'écran.
Ou sinon, tu peux partager l'écran en faisant partager l'écran sur l'icône en bas. Je peux le faire.
L'icône ne s'affiche pas, malheureusement, donc je la cherchais, mais...
Attends, hop. Voilà.
Ah oui, là maintenant, elle s'affiche. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran.
Oui.
Bon. Alors donc, je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure lorsque je me présentais. Donc, je dirige un collectif scientifique qui s'appelle la Piste de Likoto et qui donc s'intéresse à ces problématiques de ménagement du territoire à partir d'infrastructures existantes en s'appuyant sur les pratiques sociales et sur le potentiel biologique qui sont effectivement mobilisés par ces infrastructures existantes et plus particulièrement par leurs accotements. Likoto, c'est l'acronyme de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Donc, c'est l'Eurométropole transfrontalière franco-belge qui réunit les trois grands pôles urbains de Lille que vous voyez au centre de la carte, de Courtrai et Kortrijk en Flandre que vous voyez en haut à droite et de Tournai en Wallonie que vous voyez plutôt en bas et à droite également. Ça représente un très gros nœud d'infrastructures linéaires, donc à la fois des autoroutes, des canaux à grand gabarit, des lignes à grande vitesse, des voies ferrées régionales, 650 km d'infrastructures de transport, c'est-à-dire 1300 km d'accotement et de talus. Et ce que cette carte essaie de montrer, c'est l'incroyable fragmentation territoriale qui est générée par ce grand nœud d'infrastructures. C'est-à-dire que cette eurométropole, en fait, elle est constituée par une série de plaques, comme un puzzle, si vous voulez, dont les pièces seraient séparées par ces infrastructures. L'autre particularité de cette eurométropole, c'est son urbanisation diffuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le schéma classique urbano-centré, où on a la ville-centre avec ensuite ses faubourgs, puis ses banlieues et enfin ses campagnes. On est plutôt ici sur une espèce de semi de villes de densité moyenne qui ont développé chacune leurs propres extensions. Et ces extensions ont fini par se rejoindre plus ou moins, mais en laissant entre elles des enclaves agricoles, beaucoup de friches industrielles aussi, plus ou moins anciennes. Et donc, vous le voyez, un tissu comme ça qui est très, très hétérogène. Et du coup, des interfaces, des co-visibilités pratiquement permanentes entre la ville et les grandes infrastructures. Hein, le caractère disséminé de l'agglomération conjugué avec la densité des infrastructures a pour effet de démultiplier ces situations d'interface qui sont représentées en gris sur cette carte et que nous appelons des plaines urbaines. Donc, ce sont des espaces ouverts intercalés entre les infrastructures et la ville. On en a dénombré 419 sur ce territoire. L'hypothèse qui anime ces recherches, c'est celle d'une trame verte spontanée. Donc, c'est une réflexion qui s'inscrit d'abord dans une critique, justement, de la logique de trame verte, qui est une logique qui est très structurante dans les projets de recherche et les politiques d'aménagement du territoire en France depuis plusieurs décennies, mais qui s'est fortement développée depuis une vingtaine d'années. Donc, l'idée, c'est de constituer des grandes continuités biologiques, des corridors biologiques permettant de relier des réservoirs de biodiversité, donc des fragments d'espace ayant conservé une certaine diversité spécifique et génétique, de manière à rétablir la mobilité de ces espèces animales et végétales. Ce sont des espèces d'infrastructures vertes, si vous voulez. Enfin, vous connaissez ça très bien. La mise en œuvre de ces infrastructures vertes, dans notre contexte européen, et particulièrement français, où ça a été dit, on aime bien contester les projets, est très très difficile. Ça a donné lieu à l'élaboration de schémas de trame verte, à partir d'un travail cartographique essentiellement, qui a permis d'identifier ces réservoirs de biodiversité, d'identifier les corridors à créer pour relier ces réservoirs de biodiversité, mais qui se sont heurtés de façon presque systématique à la complexité des terrains. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de tracer une jolie flèche verte sur une carte, il faut aussi savoir par où elle passe, et quand on se demande comment on va la réaliser, eh bien là on se heurte très souvent à un effet de réalité qui peut être extrêmement frustrant. Donc l'hypothèse qui traverse cet ensemble de recherches autour de l'ICOTO, c'est d'inverser en fait cette démarche de trame verte, c'est-à-dire non pas de dessiner des corridors et ensuite de se demander comment on va les faire, mais de regarder sur le territoire ce qui ressemble d'ores et déjà à des corridors biologiques et en fonction de cela, faire émerger une trame verte non pas planifiée, une trame verte spontanée, en essayant de bonifier ses potentialités écologiques et sociales. Donc voilà, ça donne lieu à ce genre de projection cartographique. Hein. C'est une carte à la fois qui se situe un peu à mi-chemin entre un état des lieux et un projet. Bon, ça ressemble à ces espaces de bord d'un infrastructure, ces 1300 km de bord d'infrastructure, d'espace de marge urbaine, à toutes sortes de choses, hein, mais généralement on est sur des espaces effectivement où la végétation joue un rôle important. Ça peut prendre des formes très, très très différentes, parfois c'est très boisé, parfois je ne sais pas si ça s'affiche bien, là ici on est sur des pelouses au contraire, j'ai l'impression que, oui voilà des pelouses, là ici on est sur des pelouses qui sont pratiquement stables parce qu'on est sur des terrains qui sont extrêmement pollués. Ça, c'est une dimension importante aussi de la question. Hein. On travaille en Europe, en France et particulièrement dans le nord de la France sur des sols qui sont généralement des anthroposols extrêmement pollués, ce qui peut avoir des effets sur les cortèges végétaux tout à fait surprenants et en fait très précieux hein, du point de vue de la gestion de la biodiversité. Et puis de façon plus classique, ces talus plantés, généralement plantés dans les années 70, 80, 90, plantés très densément et qui aujourd'hui constituent des linéaires de taillis dont les gestionnaires d'infrastructures ne savent plus très bien quoi faire. Donc, ces recherches, elles sont portées depuis une dizaine d'années maintenant, enfin depuis 10 ans d'ailleurs exactement, par les pouvoirs publics, via le ministère de l'écologie, d'abord dans le cadre d'un programme qui s'appelait le PIRV de 2011 à 2015. PIRV, ça voulait dire Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement. Et puis, ces dernières années, par ITCOP, donc il y a deux recherches, la recherche en piste, qui était une recherche plutôt méthodologique, et puis la recherche Saltus, qui est en cours. En 10 ans, c'est progressivement constitué une équipe multidisciplinaire de chercheurs de paysage, je les appelle comme ça, qui sont des gens, alors qui pour la plupart sont des scientifiques, mais pas tous. Parmi les scientifiques, on a des gens qui viennent des sciences plutôt dures, on va dire, des sciences de la nature. On a des biologistes, des écologues, botanistes, pédologues, mais aussi des gens qui viennent des sciences sociales, pas mal de géographes, anthropologues, sociologues, et aussi des gens qui ne sont pas des chercheurs scientifiques, mais qui sont des chercheurs quand même, impliqués dans le domaine de la philosophie, dans le domaine des arts et dans le domaine de l'ingénierie. Voilà, donc c'est une équipe qui s'est progressivement constituée, qui continue de s'étoffer, mais enfin qui s'est stabilisée autour aujourd'hui d'une quinzaine de membres.
Très vite. Il vous reste une minute pour que Sofiane puisse avoir le temps et pour qu'ensuite on puisse avoir une petite période d'échange.
D'accord, je vous prie de m'excuser, je vais laisser filer le temps. Donc cette démarche très très pluridisciplinaire, elle pose des questions de méthode, bien sûr. Donc il a fallu définir une espèce de plateforme méthodologique commune qui permette à tous ces gens de se retrouver. Donc ça prend la forme de ce qu'on appelle des randonnées scientifiques. Alors j'ai malheureusement pas le temps de détailler les procédures par lesquelles nous avons progressivement défini cette plateforme méthodologique de la randonnée scientifique, mais en tout cas je tiens à insister sur le fait que c'est très important, à partir du moment où on s'intéresse à ces espaces d'une grande complexité, de réussir à déjouer le piège de la juxtaposition des expertises. C'est un peu le problème, moi, que je relève souvent dans notre programme de recherche ITCOP. C'est très difficile de constituer des équipes qui aillent au-delà de ce stade de la simple juxtaposition d'expertise. Voilà, pour le reste, je n'ai pas le temps. Je vous projette juste quelques images du type de relevés qu'on fait, qui sont à la fois des relevés de paysage, des relevés de mobilité. Là, ici, on identifie des possibilités de mobilité douce, cyclable et pédestre le long des infrastructures. Également une identification des différents milieux et habitats écologiques qu'on peut y retrouver. Et puis je terminerai en disant qu'aujourd'hui, on est rentré dans une phase où il s'agit d'envisager les questions de gestion de ces espaces, puisque les gestionnaires d'infrastructures, je l'ai dit tout à l'heure, sont confrontés à de vrais problèmes, hein, avec des boisements qui sont aujourd'hui très instables, très étiolés. Et donc, on sait qu'on va devoir revenir sur ces terrains-là. Et la question, c'est comment imaginer des plans de gestion qui vont permettre de tirer parti au maximum des qualités de ces espaces. Voilà, donc on a 5 sites pilotes en France et en Belgique sur lesquels nous menons jusqu'en 2024 une recherche expérimentale, donc autour de l'organisation de chantiers qui doivent permettre progressivement de définir des modes de gestion adaptés à ces espaces.
Merci beaucoup, Denis, pour cette fin express. Je vais céder la parole à Sofiane pour qu'il nous reste du temps d'échange à la fin. Sofiane, vous allez partager votre écran.
Oui, merci beaucoup. Merci, Denis. En passant, ça me fait réaliser à quel point l'interdisciplinaire est enrichissant. Vraiment, on a toujours tendance à voir ces phénomènes à partir de notre propre perspective. Alors, je vais partager ici. Vous me direz si l'écran s'affiche.
Il s'affiche.
Oui. Okay. Merci.
Bon, alors je vais aller très vite. Je vais aller très vite pour. J'aimerais bien laisser du temps, pas mal de temps pour les échanges. Alors moi j'ai décidé de plutôt d'y aller très brièvement, mais sur plusieurs recherches. Alors une recherche particulière qui m'a intrigué, qui m'intrigue encore. C'est un papier qui va paraître bientôt, en tout cas en 2021, dans la revue Management International. On s'est intéressé avec des collègues algériens à un projet finalement qui a été avorté, dans un projet de la construction d'un ce qu'on appelle un CET, donc un centre d'enfouissement technique, donc pour prendre en charge les déchets ménagers. Et finalement, le projet n'a pas pu voir le jour malgré l'utilisation de la force public par le gouvernement. Et alors, ce qu'on avait réalisé, c'est que dans l'argumentation des communautés locales, c'était pas tant le projet qui les dérangeait, mais ils voyaient davantage le projet comme un vecteur de perpétuation d'inégalités sociales, culturelles, identitaires et politiques, en fait, qui dépassent clairement le projet et qui dépassent clairement le promoteur. Donc, dans ce projet-là particulièrement, le promoteur était l'État, mais il y avait le constructeur était un privé. Donc, c'est plutôt le constructeur qui a eu beaucoup de mal à aller de l'avant avec la construction. Et ça nous a amené à réfléchir à l'acceptabilité sociale, non pas seulement du point de vue du projet, mais aussi du contexte dans lequel il s'insère. Et ça, en tout cas en gestion, on a tendance vraiment à toujours omettre de considérer cette variable. Le territoire est riche, le territoire abrite des tensions historiques, des tensions politiques. Ici, en l'occurrence, des tensions sociopolitiques liées à l'identité, à la culture, etc. Et donc, ce qu'on dit dans l'article, c'est pour les promoteurs, il faut aller au-delà du projet, il faut aller au-delà d'une vision très très simpliste de l'acceptabilité sociale et comprendre un peu le territoire dans lequel s'insèrent ces projets. Ici au Québec, on peut faire un parallèle assez rapide avec les contextes, les territoires plus des autochtones, donc des premiers peuples. Ce sont des territoires très riches en histoire, en tensions politiques, et on voit parfois certains promoteurs faire fi un peu de cette trajectoire historique qui remonte à des siècles et des siècles, voire à des millénaires, et puis vouloir toujours reconstruire à partir d'aujourd'hui comme s'il n'y avait pas d'avant. Alors peut-être une deuxième recherche actuelle en cours, non publiée, qui est en collaboration d'ailleurs avec Hydro-Québec. Donc Hydro-Québec, c'est une grande société d'État au Québec qui est le principal producteur d'hydroélectricité et distributeur d'électricité. Donc c'est grâce à Hydro-Québec que je peux me connecter ici et puis vous parler. Hydro-Québec a développé à peu près 45 ans d'expérience et d'expertise dans la gestion des relations avec le milieu local, donc avec les parties prenantes locales, et donc 45 ans d'expertise dans la gestion de l'acceptabilité sociale de ces projets. Donc ça peut être des grands projets hydroélectriques qui valent entre 7 et 10 milliards de dollars, mais aussi parfois des lignes de distribution pour exporter de l'électricité du Québec vers les États-Unis. On parle de projets de moindre envergure, mais qui sont quand même importants, 200, 300, 400 millions de dollars. Et ce projet vise à essayer de comprendre un peu d'un point de vue organisationnel, donc du point de vue de l'entreprise, du promoteur, quelles sont un peu les connaissances qui ont été développées par rapport à l'acceptabilité sociale, mais aussi quelles sont les ressources au sens très large, non pas juste ressources financières ou techniques, et les compétences qui sont favorable en tout cas à l'acceptabilité sociale. Il n'y a pas forcément de lien de causalité ou en tout cas de corrélation immédiate, mais en tout cas qui favoriserait l'acceptabilité sociale. Et on s'intéresse à trois niveaux dans l'organisation. Donc le niveau plus individuel, donc qui sont ces personnes qui interagissent avec les parties prenantes qui vont se prononcer sur le projet. Quelle est un peu l'équipe ou la fonction ou le département dédié à ces questions? Donc chez Hydro-Québec, il y a quand même une maturité assez importante par rapport à ces questions, et il y a des fonctions dédiées, donc il y a des équipes d'une vingtaine, trentaine de personnes qui ne font que gérer la relation entre Hydro-Québec et les parties prenantes locales au quotidien. Et puis au niveau de l'organisation, plus d'un point de vue macro, est-ce qu'il y a une stratégie d'ensemble, est-ce qu'il y a une vision d'ensemble, et surtout est-ce qu'il y a une culture organisationnelle d'ensemble qui véhicule certaines valeurs qui sont peut-être plus propice à l'acceptabilité sociale, en tout cas plus propice au dialogue, au débat et à l'inclusion des parties prenantes. Alors peut-être un troisième projet très très brièvement, actuellement également en cours de révision dans une revue. On se pose la question finalement, est-ce que chaque projet est unique? Est-ce que chaque controverse est unique? Ou est-ce qu'il y a une telle chose, peut-être que des configurations, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une dizaine de trajectoires qu'on voit et qu'on revoit d'année en année, de contexte en contexte. Et est-ce qu'il y a une manière de modéliser ou en tout cas de théoriser ou en tout cas de mieux comprendre cette trajectoire-là pour pouvoir informer un peu la trajectoire du débat public autour de certains projets. Et ici, l'un des arguments qu'on met de l'avant, c'est de dire que quand on parle d'acceptabilité sociale, on a tendance à focaliser sur le projet, Mais un projet peut être parfait. Et puis, je pense que Denis avait pris l'exemple de l'aéroport, la grande controverse liée à l'aéroport en France. Un projet peut être bon sur papier et être malgré tout refusé par les parties prenantes. Et ça nous amène à réfléchir un peu au processus de construction de l'acceptabilité sociale. Et en réalité, quand on parle d'acceptabilité ou de non-acceptabilité d'un projet, on ne parle pas juste du projet, on parle aussi de l'organisation qui promeut le projet. C'est-à-dire que le promoteur lui-même peut être illégitime aux yeux des parties prenantes. Et s'il est illégitime, peu importe la qualité de son projet, il y a de fortes chances que le projet soit refusé. Même chose pour les individus. Au Québec, on a des exemples de projets qui étaient sur papier bons, promus par des organisations qui étaient sur papier crédibles et légitimes, mais les individus qui représentaient le projet, l'organisation, n'étaient pas considérés comme étant crédibles et intéressantes aux yeux des parties prenantes. Et après, il y a bien sûr le processus, donc la démarche. Et il y a un peu d'écho de mon côté sur le... Armand, je ne sais pas.
Je pense qu'il y a quelqu'un, on va essayer de couper le micro, il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro.
Okay. Et puis, bon, finalement, l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a un effet un peu de, en anglais, on l'appelle le spillover. Donc, finalement, si on a un projet dans l'industrie minière, on part déjà avec un certain handicap dans le sens où les effets pervers de 30, 40, 50 ans d'industrie minière au Québec vont naturellement influencer le débat assez naturellement. Et puis finalement, je vais finir là-dessus et puis on pourra en discuter. À travers mes nombreuses recherches, bon, finalement, une des questions qu'on pose souvent, c'est quelle est la recette magique pour l'acceptabilité sociale? Et ma réponse, c'est qu'il n'y en a pas finalement. Et il y a peut-être 5 points qui ressortent, moi, en tout cas, de mes recherches et puis de mes interventions dans certaines entreprises. Alors, l'acceptabilité sociale, on a tendance à l'avoir davantage par son absence que par sa présence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une controverse, souvent, ben, on va le savoir, lorsqu'on a l'acceptabilité sociale, ben, c'est un peu plus silencieux souvent. C'est peut-être la nature humaine et puis la sociologie un peu des conflits et des controverses qui voudraient ça. La deuxième chose, c'est que c'est un processus plutôt qu'un résultat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se négocie en permanence et je peux l'avoir demain et puis dans 2 jours, je peux déjà avoir reculé nettement aux yeux des parties prenantes. Donc c'est une trajectoire en réalité qui ne s'arrête jamais. Donc il n'y a pas de recette magique, mais il y a quand même des expériences, à mon avis. En tout cas au Québec, on a de belles expériences qui montrent que l'ouverture, l'humilité, la collaboration et l'implication peuvent avoir des vertus par rapport à l'acceptabilité de certains projets. Pour aller dans le sens de critique de Denis, les parties prenantes locales, et puis là j'emploie ce terme pour référer souvent aux communautés locales qui vont être directement affectées par le projet, ne doivent pas être perçues comme des juges, c'est-à-dire comme des acteurs passifs qui vont à un moment donné se prononcer pour ou contre un projet, mais devraient être davantage perçues comme étant des contributeurs au projet qui pourraient même avoir un mot à dire dans le design du projet très très en amont. Et ça, je dis ça, mais on est vraiment dans des exceptions. Il y a quelques organisations au Québec qui arrivent à le faire, qui ont le savoir-faire pour le faire, qui ont l'humilité pour le faire. Mais bien souvent, on est vraiment là dans une vision très très naïve de l'acceptabilité sociale. Et d'un point de vue davantage des promoteurs et des organisations, on ne bricole pas l'acceptabilité sociale. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui se bricole au quotidien, c'est pas quelque chose qui s'invente. Ça se prépare à l'interne, ça se prépare d'abord au niveau des valeurs et de la culture de l'organisation, et ça se prépare aussi au niveau des ressources qu'on va dédier à cette fonction, l'écoute, la participation, la consultation, tout ça prend du temps, ça prend des ressources, donc ça prend des expertises, mais ça prend aussi de l'argent. Et il faut que les organisations soient prêtes à investir ces ressources-là pour éventuellement favoriser l'acceptabilité sociale du projet, tout en sachant que le projet pourrait aussi ne pas être accepté. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, et puis je vais m'arrêter là, mais on pourra toujours en discuter pendant la période d'échange. Merci.
Merci Sofiane et merci Denis pour ces présentations fort intéressantes. On a une période d'échange qui va être un petit peu courte parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc les participants qui ont des questions, je vais vous inviter à les poser dans le chat, puis je me chargerai de les poser à nos invités. Ce qui est très intéressant dans cette deuxième partie, où vous avez présenté vos recherches, c'est que vous illustrez finalement les propos de votre première recherche, où on parle de ce territoire qui est si différent et ce contexte culturel et historique aussi qui est différent, mais qui amène des questionnements peut-être semblables. Vous avez parlé de la façon d'appréhender ce qui entoure ces infrastructures, chacun d'une façon différente. Soit, en fait, parfois, il faut adopter un processus inverse ou, comme Sofiane le disait, parfois, il y a la question de la légitimité, de la crédibilité et des pouvoirs en place qui font que on n'acceptera pas un projet. Puis, j'ai bien aimé aussi quand vous dites c'est plus un processus qu'un résultat. Et effectivement, ça faisait écho à ce que vous disiez pendant la première partie de vos présentations où ça ne peut pas être qu'un résultat. On bafoue un petit peu ce que ça peut apporter au projet. Et puis, je reviendrai sur ces notions d'acceptation et d'appropriation qui sont à chacun, finalement, au cœur de vos présentations des enjeux et des enjeux qui vous intéressent. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je fais ça très, très vite parce que il est 11h58 ici à Montréal. Donc, il doit être 16h58, je crois, à Paris, en France. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un souhaite poser une question. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je peux faire une petite danse aussi en attendant que les gens soient volontaires pour poser une question.
Bon.
Ah. Alors, Sofiane, alors c'est une question de Sophie. Sofiane a dit que les processus de co-construction en amont restent très exceptionnels, qu'il ne faut pas être naïf. Pourtant, il y a beaucoup de discours et théorisations là-dessus. Et puis, quelques succès quand même, certains projets d'éoliennes, d'éco-routes. Donc, Sofiane, est-ce que vous voulez réagir? Je ne sais pas si c'est clair, si vous ouvrez le chat, vous pouvez relire ce que je viens de dire.
En fait, déjà, j'étais en train de regarder la question. C'est une bonne question. En tout cas, c'est ma perspective peut-être qui est biaisée, mais quand on voit de grandes controverses contemporaines au Québec, que ce soit le projet de gazoduc, que ce soit Strateco avec l'uranium à la Baie James, on se dit qu'il y a quand même une culture quasiment d'industrie qui a changé radicalement. On a encore des promoteurs qui refusent de réaliser des études d'impact environnemental et sur le milieu humain. On a encore des promoteurs qui pensent que l'autorisation gouvernementale est suffisante. Donc, je pense qu'on a des deux, c'est-à-dire qu'on a de belles expériences. À mon avis, des entreprises comme Hydro-Québec nous donnent de la matière à réfléchir en termes de bonnes pratiques. Et puis, on a des cas qui sont moins bons. Vous avez raison, c'est-à-dire que c'est pas le discours qui manque et c'est pas non plus la théorie qui manque, mais à mon avis, c'est plutôt l'accompagnement des organisations dans le changement. Je pense que c'est là où peut-être il y a encore un petit retard, c'est-à-dire que on n'a pas encore compris qu'il ne suffit pas de croire que l'acceptabilité sociale est importante pour autant pouvoir transformer ses pratiques. Lorsqu'on est habitué en tant qu'organisation à faire les choses d'une certaine manière depuis 20-30 ans, ce n'est pas en 6 mois qu'on va transformer nos pratiques. Donc, c'est vraiment d'accompagner les organisations, pas dans la transformation, ce n'est pas forcément radical, mais dans le changement progressif des pratiques qui va notamment pouvoir influencer après peut-être un peu une sorte de changement de normes et de façon de faire au quotidien.
Merci Sofiane. Donc là, on arrive à la fin de notre temps, mais il y a quand même deux questions. Donc je vous propose qu'on prenne 10 minutes pour répondre aux questions qui suivent. Puis après, on mettra fin à notre séminaire. On a déjà fait un petit formulaire d'évaluation. Judith va mettre le lien dans le chat que vous pouvez remplir. Il y a juste 4 questions. Donc n'hésitez pas à le remplir, c'est rapide. Donc merci Judith de mettre le lien dans le chat. Denis Delbar, Nathalie a une question pour vous. Est-ce que vous avez un processus gouvernemental pour l'acceptabilité sociale en France?
Oui, bien sûr, il y a des cadres juridiques qui développent cela. Le plus ancien, c'est l'enquête publique. Donc il ne faut pas oublier qu'elle est quand même la base de la consultation démocratique des populations concernées. même si malheureusement elle a une très faible visibilité. Bien souvent, moi je suis frappé par la faible participation dans les registres d'enquête publique, y compris sur des projets qui ont parfois un impact extrêmement lourd sur les populations. Ça démontre bien le problème en fait de la démocratisation, de la mise en débat de ces projets d'infrastructure. Je pense que si peu de gens participent aux dispositifs existants, c'est parce qu'ils partent de l'idée que de toute façon les décisions sont prises sans eux. On n'est pas, même si les dispositifs de consultation existent, je pense que dans l'état d'esprit, en tout cas en France, reste très marqué par des décisions verticales qui se prennent en haut. Et voilà, c'est finalement c'est ce type de procédure, et je pense souvent perçu plutôt comme un formalisme que comme la traduction d'une intention réelle de consulter la population. Depuis l'an 2000.
Merci Denis.
Je n'avais pas fini de répondre, mais bon, c'est pas grave.
Non, je l'ai juste. Non, parce que ça avait coupé un petit peu de mon côté.
Depuis l'an 2000, vous avez quand même aussi. Voilà, donc en 2000, la loi SRU, Solidarité et Rouge-Houlou, je ne sais plus ce que ça veut dire, peu importe, a instauré aussi une obligation d'information et de concertation pour tous les projets de grande ampleur, donc bien au-delà de l'enquête publique. Mais alors là, par contre, on est dans une espèce de grand flou sur la forme précise que ces dispositifs de concertation sont censés prendre. Donc c'est largement laissé à l'appréciation des organismes impliqués dans ces projets.
Merci.
Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de répondre à la question suivante.
Ben oui. Est-ce que vous la voyez dans le chat ? Je vais la poser pour tout le monde. Mais en quoi les outils de planification territoriale, SCOT, PLU, etc., permettent ou non la gestion ou le ménagement de la TVB spontanée ? Sinon, quels autres outils nécessaires ou dispositifs d'accompagnement ? Alors là, il y a des acronymes que je ne saurais expliquer.
TVB, trame verte et bleue, hein. Donc ça renvoie à ce que j'ai expliqué rapidement tout à l'heure. La réponse est à la fois oui et non. Oui, il existe des dispositifs d'accompagnement, de protection. Bien évidemment, les documents d'urbanisme permettent de protéger ces espaces-là. Cela dit, dans la plupart des cas, ils sont protégés de fait par la présence de l'infrastructure. C'est ça qui est très intéressant. C'est la nuisance générée par l'infrastructure qui impose le recul de l'urbanisation. Et finalement, ces terrains ne sont menacés qu'à partir du moment où la pression foncière s'est considérablement accrue et où l'investissement prévu permet de financer des ouvrages, par exemple, de protection acoustique, qui permettent de réduire significativement ces nuisances et de transformer en réserve foncière des espaces qui, jusque-là, n'intéressaient absolument personne et sur lesquels, donc, toute cette richesse a pu se développer. Cela dit, ce qui est très intéressant, c'est que je suis plusieurs de ces espaces qui présentent souvent une très grande qualité environnementale, qui aujourd'hui sont concernés par des projets urbains et qui en fait font l'objet de défenses. Donc là, on est à nouveau sur le syndrome Notre-Dame-des-Landes, des petites ZAD, des petites zones à protéger, des petites zones à défendre qui se constituent un peu partout en France, à Lille, à Dijon, à Besançon. Et donc, transformer ces terrains en réserves foncières, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Je pense que petit à petit, les maîtres d'ouvrage prennent conscience du fait que ils ne pourront pas se contenter d'une logique d'acceptabilité sociale pour intervenir de façon efficace et durable sur ces terrains-là.
Merci, Denis. Sofiane, est-ce que vous voulez compléter ? Ah ben, il y a Carmen Contuarias qui a une question, puis après on s'arrête. Bonjour Sofiane, dans l'évolution du concept d'acceptation sociale, plusieurs liens existent avec la notion de capital naturel et valorisation de ressources naturelles. Sont-elles présentes dans vos exemples au Québec ?
Sincèrement, c'est une excellente question. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'aborder le concept. Peut-être que celle que moi je connais, et puis mes connaissances sont bien sûr limitées, Peut-être toute la question de la résilience, c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale comme vecteur de résilience des écosystèmes, à la fois au niveau social, mais aussi au niveau écologique slash environnemental. Dans mes cas, par exemple, où j'étudie les Premières Nations, le style de vie des Premières Nations dépend entièrement des écosystèmes, c'est-à-dire que bon, ils chassent, ils pêchent. Pour certains, ils passent 2, 3, 4 mois dans ce qu'ils appellent the bush, donc la forêt. Donc, c'est clair que pour les grands projets d'infrastructure dans les territoires autochtones, la dimension du capital naturel et la valorisation de la biodiversité, elle est capitale. C'est vraiment la condition sine qua non pour l'acceptabilité sociale d'un projet. Dans le cas d'Hydro-Québec, par exemple, avec le grand barrage hydroélectrique des années 2007 à 2012-14, East Main Sarcelles-Rupert. C'était un méga projet et Hydro-Québec, pour en quelque sorte, non pas compenser, mais en tout cas pour atténuer les impacts de ce projet sur la biodiversité locale, Hydro-Québec a investi beaucoup de moyens à la fois techniques, organisationnels et financiers pour justement permettre aux populations locales, donc la Première Nation Cree, de s'approprier, en tout cas de se réapproprier le territoire à travers des projets qui vont justement peut-être valoriser et soutenir un peu plus la biodiversité locale et puis les écosystèmes. Donc je pense que oui, c'est un angle très intéressant. C'est pas forcément l'angle qui m'intéresse, en tout cas qui est central dans mes recherches, mais oui, je pense que la dimension environnementale écologique, là, elle est très importante dans la plupart en réalité des grands projets qu'on voit au Québec et je pense ailleurs d'ailleurs.
Merci Sofiane. Il y a plein de choses qui sont en train de popper dans le chat, j'ai du mal à suivre. Je pense que c'est le temps de mettre fin à ce séminaire. On a pris un petit peu plus de temps que prévu. Je remercie tous nos participants d'être restés jusqu'à la fin. Vous nous avez appris plein de choses, Sofiane et Denis. C'était presque trop court, en fait. On aurait bien aimé que vous puissiez échanger un petit peu plus. Une heure, ça passe vite. Tous les supports visuels et l'enregistrement seront bientôt disponibles. On vous en informera par courriel. On vous invite aussi à remplir donc notre petit formulaire d'évaluation. Si jamais ces échanges vous ont donné des nouvelles idées, si vous avez des choses à nous partager, à partager aux chercheurs, sur le sujet qu'on vient d'aborder, n'hésitez pas à le faire. C'est aussi l'un des objectifs de ce séminaire là, c'est de créer un petit peu l'émulsion entre nos chercheurs, les chercheurs de CLIAPS et les chercheurs de l'ITECOP, mais aussi les gens qui participent à nos séminaires. Et je souhaite tout particulièrement remercier nos deux invités, Sofiane Baba et Denis Delbarc, dont je prononce enfin bien le nom de famille, pardonnez-moi.
Pas grave, j'ai l'habitude.
Oui, bah oui, mais bon, tout de même. Vous avez osé inaugurer ce premier séminaire. Donc, je vous en remercie. C'était courageux de votre part. Je souhaite aussi remercier Sophie Bonin et Nathalie Drouin pour leur présentation de cette collaboration qui était très éclairante et qui permet un petit peu aussi de mieux comprendre pourquoi on a souhaité travailler ensemble. Et j'espère que cette formule vous a plu. On est sorti un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on espère que ça a pu retenir votre attention. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à nos deux autres webinaires. Le prochain, le 28 mai, qui porte sur l'impact et les effets des infrastructures. Et le troisième qui parle d'appropriation des espaces et excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur le titre exact. Je vais y arriver, je ressors mes notes du début de la rencontre et je rate mon coup. Donc voilà, je suis navrée sur les voilà. Et les nouvelles demandes sociales. Excusez-moi, j'avais les bons mots, mais pas dans le bon ordre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations sont disponibles et sur les sites web de KEOPS et sur le site web de ITECOP, pardon. Donc merci à tous, merci infiniment d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Au revoir.
Au revoir et merci à toi, Armance, pour l'animation de tout ça. Voilà.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée de l'autre côté de l'Atlantique.
Ouais, bonne soirée, ouais, nous c'est bon appétit.
'est top. Ouais, merci. Merci pour
l'organisation. La technique derrière, les petits messages sur le temps.
Merci, c'était très bien. Et j'ai pris une photo, vous êtes sur Twitter maintenant.
Merci beaucoup.
Et c'était donc vraiment, je pense que ça va bien fonctionner de voir les perspectives des deux de côtés de l'Atlantique. Là, vraiment, c'est très intéressant.
Ouais, vivement les prochains. Donc,
oui,
Carmen, qui est encore là, ça sera ton tour la prochaine fois. Hein.
Ouais. Bonjour, je suis encore là et vraiment ravie. Très, très